Et je laisse la place à Arnaud pour la conclusion de la journée.
Alors, je dois conclure et sans doute reprendre un point de vue peut-être un peu plus, on va dire, universitaire sur la question du punk, parce qu'après tout, je suis un peu là pour ça. Alors, l'une des questions qui a été lancinante hein, dans la préparation et que moi j'ai entendu tout au fond, toute la journée, au fond, reposer plusieurs fois, et c'était là-dessus que je voulais intervenir pour conclure, et je pense que ça fonctionne assez bien, c'est la question de savoir si le punk, c'est un mouvement musical ou si c'est un mouvement politique et social. Alors, c'est une question qui est posée dès le début, en fait, très très vite. Hein, et d'ailleurs, à chaque fois, on entend des intervenants qui disent « mais c'était pas un mouvement politique, même si on leur a pas posé la question ». Donc il y a toujours besoin de reposer la question. Et effectivement, y compris le débat sur qu'est-ce que c'est qu'être punk ou ne pas l'être, très vite, en fait, hein, un groupe qu'on cite beaucoup qui est Crass, et vont le définir le punk comme étant finalement pas moins un style de musique ou un style vestimentaire qu'un esprit, hein, qu'une philosophie, et qui est évidemment une philosophie contestataire. Voilà. Alors, c'est pareil. Hein. C'est plutôt un mouvement social, mais même la dimension politique, plus classiquement politique, hein, est quand même présente très vite, puisque Diallo Biafra, dans ses mémoires, parce que j'ai lu les mémoires de Diallo Biafra, parle d'ailleurs de Little Bob Story comme l'une de ses influences, ce qui était assez intéressant. En fait, dès 1979, hein, Diallo Biafra se présente aux élections à la mairie de Los Angeles. Alors, évidemment, c'est sur un mode de farce, enfin, quand même, mais tout de même, et il fait 4%. À peu près, c'est bon. Il arrive à faire 4% à peu près aux élections. Donc il y a, alors c'est un peu une espèce de farce, mais tout de même, bon, il y a cette dimension politique qui était toujours présente. Alors pourquoi j'avais mis ces deux images ? Alors c'est parce que en fait l'image de gauche, c'est en fait c'est pas, ça a été ajouté le 13 mai 2006, mais c'est une petite clip d'un groupe punk parisien qui s'appelle Oberkampf. Il y avait beaucoup de liens, y compris avec le fanzine dont on a parlé, Aliénation, et qui les ont interrogés très souvent en 84. Et ça m'a beaucoup amusé, parce que dans leur vidéo de 84, il y a ça. Et évidemment, Le Point a fait exactement la même image au printemps pour dénoncer, de manière sur un ton assez dramatique, hein, le mouvement des Gilets jaunes. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un certain nombre de points communs, hein, y compris dans les images, dans les façons de s'attaquer aux symboles de la République. Hein, finalement, Oberkampf le fait aussi. Et, alors c'est une chanson qui s'appelle « Fais attention », que moi je trouve pas mal, d'ailleurs. Voilà. Donc, alors de la même manière, hein, le « No Future », certains Anglais vont dire oui, mais c'était déjà dans l'air en 68. Hein, c'est un peu une espèce de rattrapage de 68. Et notamment, il y a ce dessinateur qui s'appelle Ron Cobb. C'est un dessin de 66 et qui revient à la mode parce qu'il y a un côté prévision de l'apocalypse. Alors là, c'est pas le réchauffement climatique, c'est l'apocalypse nucléaire. Mais Ron Cobb a été très populaire parmi certains groupes punk qui reprenaient volontiers certains de ses dessins. Voilà. Alors, plusieurs choses. Je pense qu'on peut revenir sur deux, trois points. Alors, il y a un livre qui est toujours, qui a la grande référence, qui reste toujours, La culture du pauvre de Richard Hogarth, qui est écrit en 1951, quand il était à l'université de Hull. Et en fait, il y a un passage très célèbre dans lequel Hogarth est en train de décrire un groupe social qui ne comprend pas très bien, qui sont des jeunes, qui sont dans des cafés, il y a des jukebox, et puis il parle déjà d'une littérature qui parle de fuite sur la route, alors que Kerouac n'a pas encore ressorti sur la route, hein, on est en 51. Et en fait, Hogarth voit bien que ce groupe attend quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et lui se demande ce qu'ils attendent. Et en fait, ce qu'ils attendent, ça va arriver l'année d'après, puisque le rock officiellement commence en 52, hein, on pourrait dire. Et en fait, évidemment. Mais ce que montre Hogarth, c'est que déjà tout est en place. C'est-à-dire qu'il y a déjà finalement des jeunes, qui sont souvent des jeunes ouvriers issus de la campagne, qui sont arrivés dans les villes anglaises, qui sont dans des cafés, qui ont des jukebox, et pour le moment, ils ne savent pas encore quoi mettre dans le jukebox, mais ça ne va pas tarder. Quoi. Et quelque chose va arriver. Voilà. Alors, La notion même de scène punk est un concept intéressant, hein, parce que la scène punk, hein, c'est les musiciens, mais c'est aussi le public, la fanzine et les labels. C'est-à-dire que la notion de scène punk, hein, d'entrée, est une notion qui ne résume pas le punk uniquement à ses musiciens. Et en fait, ça peut définir ce qu'on appelle une communauté de mouvement social. C'est un mouvement social qui n'est pas très structuré, mais avec des gens qui partagent un certain nombre de valeurs ou de positions. OK ? Alors, d'autres problèmes sont aussi à voir. Hein. D'abord, il y a toujours des débats importants sur la sociologie du punk, qui sont en général très difficiles à trancher, parce que c'est affirmation contre affirmation. Hein, en général, on n'a pas de mesure, etc. Ce qui est sûr, c'est que très vite, les punks sont qualifiés en français, en France en tout cas, et y compris au Havre, on voit souvent le terme de zonard contre eux. Alors, les gens qui ont un peu l'habitude de l'histoire sociale, sauf qu'en fait, zonard, c'est la nouvelle forme de zonier, hein, c'est-à-dire les gens qui habitaient dans des cabanes derrière les fortifications de Paris, hein, au XIXe siècle, quand elles avaient été refaites. Donc, en fait, c'est un terme qui a une très longue histoire. Hein, en fait, zonard, c'est zonier, hein, et ça décrit, c'est la zone qui s'est diffusée partout, et ça décrit l'espace des marginaux. D'accord ? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on trouve le terme zonard, hein, y compris dans des fanzines qui se réclament de crasse, mais qui se moquent un peu de ceux qui sont, au fond, les plus pauvres du public. Quoi. Voilà. Alors, l'un des problèmes les plus intéressants, parce qu'il a été question de la relation à la modernité, et au style, évidemment, c'est la question de l'accélération. Alors ça, c'est là où, à mon avis, le punk a sa dimension la plus paradoxale et la plus intéressante. C'est que y a un paradoxe, puisqu'au fond, les punks sont très souvent des exclus, hein, de quelque chose. Il y a beaucoup de chômeurs ou de jeunes ouvriers qui ne sont plus en train de... dont les emplois sont menacés. Et en fait, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que leur musique consiste à accélérer. Donc on pourrait très bien dire que c'est une accélération de la cadence. Il y a un côté fordiste, parce que ça a été dit notamment pour ce qui se passait à Détroit, parce qu'on fait souvent référence à Détroit. Et il y a quelque chose de cet ordre. Mais ce qui est bizarre là-dedans, c'est que au fond, les punks, dans une société où, si on reprend les études d'Armut Rosa, eh ben, soit on accélère, soit on peut accélérer, soit on a la capacité à rester tranquille, et sinon on est exclu. Les punks sont des exclus qui accélèrent. Mais ils accélèrent autre chose. C'est-à-dire qu'ils accélèrent pas le travail, ils accélèrent une musique pop pour se moquer du statu quo. Il y a quelque chose de cet ordre. Et ce qui est assez marrant, c'est que il y a un précédent qui est souvent fait, c'est que celui qui prétendait accélérer, mais justement accélérer sans but productif, c'est Rimbaud. Il y a toute une série de textes de Rimbaud qui vont là-dedans. Alors la question de la longue durée, puisque c'était là-dessus, on voulait voir si on pouvait regarder au-delà. Alors, pourquoi la longue durée ? D'abord parce que il y a un documentaire, donc je suis étonné de ne pas l'avoir le plus souvent cité, de Dan Graham, c'est sur le hardcore punk, hein, qui s'appelle Rock My Religion, qui est un documentaire de 1984, dans lequel Dan Graham explique que le hardcore punk, les premiers groupes hardcore punk ont des chanteurs qui sont tous issus de familles Quakers. Et en fait, il va considérer que le hardcore punk est une espèce de forme moderne de l'hérésie que représentait le Quakers. C'est assez intéressant. Donc il inscrit le punk dans une démarche de longue durée, mais il a des arguments, pour dire sociologiques, assez précis. Et puis donc il y a eu un article dans Multitude en 2013 sur là-dessus par une dame qui s'appelle Catherine Gade. Voilà. Alors le punk, on en a un peu parlé. Évidemment, qu'est-ce que le punk ? Alors le terme lui-même est effectivement très ancien. C'est une insulte, ça a été dit ce matin, qui a signifié marginaux, très rapidement prostituées, femmes puis homosexuels. Et le terme actuel, après le punk, c'est toujours le punk à chien. Hein, le mot existe toujours et ça désigne quoi ? C'est les jeunes vagabonds. Alors c'est pareil, ça nous renvoie dans une histoire longue. Hein. Vous savez qu'en 1889, la police, on ne sait pas comment elle avait eu le chiffre, hein, il est sans doute sujet à caution, estimait à 600 000 le nombre de jeunes mineurs, parfois enfants, susceptibles de vagabonder en France. Et ils sont systématiquement... dans les rapports de police associés à la prostitution. C'est-à-dire qu'en fait, Le punk à chien, c'est un vagabond. Dans la vision de la police, le jeune vagabond mineur est plus ou moins un prostitué. Donc c'est toujours la même idée. Hein. Quelque part, c'est un marginal, c'est les classes dangereuses et c'est les punks. Donc c'est toujours avec ce paradoxe. Hein. On accélère, on est tout en étant en dehors de la scène et en revendiquant la paresse. Hein. C'était la fameuse chanson des Olivenstein, qui est restée quand même très célèbre. Hein. Je suis fier de ne rien faire. C'était la devise de beaucoup de gens, moi le premier, pendant longtemps. Voilà. Alors, Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, un certain nombre de textes produits par des gens de la scène punk vont assez vite définir le punk comme n'étant pas simplement un style de musique. Et on pourrait dire que il y a la grande question des skins, hein, de comment, puisque les deux mouvements sont concurrents, hein, et il y a un argument possible, c'est-à-dire que les skins mimaient la vieille classe ouvrière britannique, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la nostalgie de la classe ouvrière britannique. Les punks sont de la classe ouvrière, mais pas seulement. Ceci dit, les skins aussi. Hein, on a parlé de Batskin. La mère de Batskin, elle était avocate. Hein. Batskin n'a jamais été un fils de prolo. Hein. Et donc, il y a ce phénomène-là aussi chez les skins. Et finalement, dans ce cas-là, ça veut dire que les punks acceptent finalement l'idée que la classe ouvrière a terminé. Et dans sa forme ancienne, et c'est, il se constitue dans une autre forme qu'on pourrait appeler une multitude. D'accord ? Voilà. Alors, je voudrais dire un mot quand même de quelque chose pour lequel même on pourrait développer une recherche, qui est sur le do it yourself, et bon, faites-le vous-même, et notamment sur l'entrepreneuriat punk. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est la question des labels. Et là, il y aurait beaucoup de choses à voir là-dessus. Ce qui est certain, c'est que les labels ont fermé, hein, parce que ils avaient un fondrement négatif qui venait du fait que les experts comptables ne refusaient de reconnaître la valeur marchande du stock de disques, du catalogue de disques des labels. Hein. Et donc ça a provoqué, je crois, la faillite de l'Invitation au suicide, celle de Closer Records et celle de beaucoup de faillites en cascade. Et là, c'est très intéressant. Donc, il y a eu un rapport sur le financement de l'industrie du disque en 2004 par des experts comptables. Donc, il y a une petite remarque là-dessus. Ça n'a toujours pas changé, hein, fondamentalement. Ce qui fait que les labels, pour survivre, n'avaient le choix. Soit les gens étaient riches, mais ce qui n'était pas le cas. Soit ils devenaient subventionnés, ce qui n'était pas très punk, c'est-à-dire qu'ils rentraient dans la sphère en public. Soit il fallait qu'ils finissent dans l'escarcelle des majors. Parce qu'il y avait ce problème de financement. Là, je pense qu'il y a un champ de recherche qui pourrait être très intéressant, hein, de comprendre effectivement, là, de sociologie économique de la culture, hein, effectivement, de comprendre ce qui s'est passé, y compris avec la vision comptable qu'on pouvait avoir de certaines choses. D'accord ? Voilà. Alors, le do-it-yourself, on peut le critiquer aussi. Hein, c'est d'ailleurs, finalement, le do-it-yourself a échoué à remettre en cause le cadre institutionnel. Et Zygmunt Bauman, d'ailleurs, lui, il explique qu'au fond, il parle plus tard de « do it yourself method », hein, méthode, c'est les zones de confort sur Internet, et pour lui, c'est quelque chose qui, finalement, crée des bulles qui ne changent rien. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une vision assez critique, maintenant, du « do it yourself », et à la limite, l'exemple que moi, j'aime bien prendre pour ça, c'est le film que tout le monde connaît, je pense, « Goodbye Lenin », hein, le « do it yourself », c'est ça, vous rebricolez votre petite RDA idéale, mais au fond, ça ne change rien. Voilà, le « do it yourself », il y a un côté comme ça, tu peux reconstruire ton petit monde si tu veux, mais ça ne change rien au problème global. Alors, dernier point que je voudrais voir, c'est vrai qu'on a dit, il n'y avait pas de groupe punk à vrai spécialement politique. Non, mais il y avait des fanzines qui l'étaient. Hein, notamment Valérie Roger, je vous conseille d'aller regarder Guérilla Urbaine et Aliénation. Vous allez voir qu'en fait, les références majeures, c'est Crass et Subhumans. Et Valérie Roger, c'est un peu difficile, c'est un passé douloureux, elle ne voulait pas en reparler, mais je lui ai demandé l'autorisation d'en reparler. Il faut savoir que Guérilla Urbaine et Aliénation étaient régulièrement saisis par la police, hein, parce qu'on les suspectait de manière complètement folle à cause du nom Guérilla Urbaine d'activité terroriste. Et il y avait une tonalité politique, mais c'était ambigu, parce qu'ils n'arrêtaient pas de mettre sur le fanzine « Ceci n'est pas un journal politique ». Enfin, si vous avez besoin de le rappeler tout le temps, c'est qu'évidemment, les gens se posent la question, quand même. Hein. Donc, il y avait cet aspect-là. Alors, dernier point important, il y avait une présence, quand même. Par exemple, là, Juliette faisait référence à Apple Pie. Apple Pie ne dissimulait pas les origines punk de la plupart de ses fondateurs. Moi, j'ai milité pendant 10 ans dans des groupes de chômeurs et de précaires. Eh bien, tous les plus anciens, au Havre, avaient en commun, ils n'étaient pas du tout punk dans l'allure, mais ils étaient tous allés au concert des Ramones. C'était un de leurs points communs. Un de leurs souvenirs, c'était avril 77, le concert des Ramones. Donc ça, il y a quand même quelque chose qui, après, effectivement, qu'on a retrouvé dans des parcours militants. Alors, dernier point que je voudrais reprendre avec vous, c'est la dimension géographique. Alors ça vient du fait que, de la même manière que les punks, sous modèle punk à chien, existent toujours, en fait, je fais beaucoup de recherches sur l'habitat mobile et les travailleurs qui sont en habitat mobile ou en déplacement. Eh bien, en fait, dans des réunions politiques liées à ça, on va voir beaucoup de jeunes punks, y compris d'ailleurs dans les Ardennes. Je me souviens d'avoir vu des jeunes punks de 18 ans qui écoutaient des groupes du Havre. Qui écoutaient les Bad Brains et qui écoutaient les Roadrunners, qui n'étaient pas punk, mais que les Travelers écoutent toujours. Ça, je l'ai vu, je n'en croyais pas mes oreilles et mes yeux. Quoi. Il a vraiment fallu que je leur demande si vous écoutez vraiment ça. Quoi. C'était assez bizarre, mais ils le faisaient. Et puis, il y a ce problème alors, qui est intéressant dans la sociologie du punk, c'est qu'il va se produire quelque chose qui a été peu commenté, qui s'est produit en France comme en Angleterre, aux États-Unis, c'est qu'à un moment donné, les squat punk, puisqu'il y a une des dimensions de la scène punk, c'est le squat, les squat punk vont être de plus en plus repoussés hein, dans les marges, et elles vont se voir vers la banlieue. Et alors là, par exemple, c'est donc, vous voyez, c'est en 2009. Alors quelques-uns peut-être se rappellent de ce groupe, qui était moins un groupe d'ailleurs de musique, un groupe d'activistes, hein, les rassemblés. Et les rassemblés, ils avaient un terrain à Oudal, hein, qui était effectivement, à un moment donné, je crois qu'ils avaient un squat littéralement dans la campagne, quoi, parce qu'il n'y avait plus de possibilité pour eux d'être en ville. Alors vous voyez d'ailleurs hein, que quand on dit le dernier groupe punk du Havre, c'est les Pink Flamingos, bah, effectivement, si je prends une archive d'il y a quelques années, dans ces formes-là, on retrouve le nom de Pink Flamingo. Hein, ils ont toujours été. Donc ça, les rassemblés sont caractéristiques de ce phénomène-là, hein, d'une espèce d'expulsion de la ville, en fait, des punks via la possibilité de squatter. J'avais participé avec eux à la tentative de reprendre le camping Monjon, qui était vide, pour en faire un squat punk. Et la police a réagi, on l'a tenu que quelques jours, et la police est arrivée, et elle a été très brutale. Hein. Au passage, là, sur la question des brutalités policières, on n'en a pas parlé, mais je me souviens qu'un des rassemblés s'est retrouvé avec le genou pété. Hein. Il n'y avait vraiment pas de quoi. Il n'y a eu aucun caillou balancé, il n'y avait vraiment pas de quoi, mais ils étaient déjà allés assez fort, hein, donc c'est pas nouveau. Alors, je voulais juste terminer là-dessus. Le punk va donc continuer. Effectivement, la question de sa nature, effectivement, c'est une philosophie qui peut s'hébrider. Alors, le lieu, parce que la photo, là, elle a été prise par Ferge van der Stiegel, qui est un photographe avec lequel j'ai un peu bossé, qui travaille sur un endroit qui est une espèce de base-vie pour des saisonniers et des gens qui ont des camions dans les Cévennes, qui s'appelle la mine. C'est une ancienne mine de plomb, les mecs n'ont pas peur, hein, qui a été rachetée par des types. Et en fait, c'est une base-vie et c'est des salles de concert. Eh bien, la mine, c'est exactement comme dans les Wagenplatz à Berlin. Ça frappe tout de suite quand on y est. C'est qu'on va y voir des punks et on va y voir des hippies. Des vieux hippies, mais aussi des jeunes hippies. Donc il y a eu tout un travail. On parlait d'anthropologie du punk. Alors, il y a un article là-dessus de Ralph Marceau qui notamment travaille sur les Wagenplatz à Berlin. Et lui considère que les Wagenplatz sont des lieux dans lesquels se sont hybridés, en fait, les cultures punk et les cultures hippies. Alors, ce qui est très marrant, c'est ça. J'ai trouvé ça. Hein, c'est une affiche de la mine. Alors, c'est pareil. Hein, en fait, c'est des affiches, mais c'est très confidentiel. Hein, c'est comme ce qui était raconté. La mine, déjà, il faut y arriver. Il faut savoir où elle est. C'est toute une aventure d'arriver à la mine. Et on n'y arrive pas comme ça. Donc, évidemment, le public, finalement, on n'a pas trop de problèmes pour contrôler le public, parce que déjà, il faut aller jusqu'à cette ancienne mine de plomb. Et il y a cette affiche que je trouve tout à fait marrante, parce qu'on voit bien l'hybridation entre punk et hippie. Hein, il y a des référents punk et des trucs qui relèvent plutôt des trucs hippies. Quoi. Et là, c'est ce qui se passe dans ces endroits-là. Donc il y a une plasticité du punk qui va être expliquée très tôt par Crass, Penny Rimbaud, hein, qui est le leader de Crass, qui était une espèce d'intellectuel organique du punk, hein, par le fait qu'il ramène que le punk est plus un état d'esprit ou une philosophie. Et à un moment donné, ils disent on peut très bien être punk sans être habillé comme un punk. Yann Farsi n'a pas l'air d'un punk. Hein. Et pourtant, Dieu sait que c'en a été un et j'en connais d'autres. Donc il y a quelque chose d'autre. Hein. C'est aussi la question avec le féministe. Est-ce qu'on peut être punk et faire un groupe actuel? Oui, parce que le punk, finalement, très vite, il ne s'agit plus d'un certain style de musique, y compris parce qu'il y a la volonté de se dégager du rattrapage commercial. Hein. Effectivement, les punks au bon marché. Moi, je me souviens qu'avec mes amis, il y a 15 ans militants, j'ai participé, je ne devrais pas le dire, mais enfin, au saccage du bon marché. Donc c'est assez marrant de voir que les punks, maintenant, ont une exposition là-dedans. Donc c'est un peu étrange, alors qu'on l'avait mis à sac il y a une quinzaine d'années, dans des groupes de chômeurs. Voilà, et dernier, alors ce n'est pas le sujet, mais je vous recommande, sur le même problème, sur la techno, un petit vidéo qui est peu connu au Havre, et pourtant, c'est Cadence d'Alexandra Tillman, que vous pouvez trouver sur Vimeo. Et c'est une anthropologue marseillaise qui a travaillé sur l'histoire d'un DJ de fête techno dans les années 2000 et qui finit en prison pour trafic de drogue. Et en fait, ce DJ est un soudeur. Il était soudeur et en fait, bien sûr, il est havrais. Il y a toute l'histoire d'une partie de la fin de la classe ouvrière du Havre, qui ne peut plus travailler, ça s'est expliqué au début, hein, et lui devient, et donc ça c'est la musique techno, donc c'est après le punk, c'est la musique techno comme prolongation de l'usine, et puis toute une longue évolution. Et c'est un très joli petit film qui est peu connu, et surtout qui est peu connu au Havre, c'est assez bizarre, et que je vous recommande. Voilà, merci.
Merci à tout le monde, merci aux intervenants et au public naturellement.